Bonsoir à toutes et à tous. Une épidémie hors de contrôle, selon les mots du ministre de la Santé britannique. Le Royaume-Uni fait face à une variante du Covid qui serait jusqu'à 70% plus contagieuse. Résultat, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Inde, la Turquie, le Canada, tous ces pays ont suspendu tous les transports en provenance du Royaume-Uni. Emmanuel Macron dit s'inquiéter d'une mutation problématique du virus avec une forme beaucoup plus agressive. Et déjà, on s'interroge sur un possible durcissement des mesures sanitaires, un reconfinement à l'image de ce que font nos voisins. Alors, seule bonne nouvelle, cet après-midi, les autorités européennes ont bien validé la mise sur le marché du vaccin Pfizer. Les premières vaccinations, d'ailleurs, pourraient commencer dès dimanche prochain. C'est le sujet de cette émission de Ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Virus mutant, l'Europe se barricade ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Peloux. Vous êtes médecin urgentiste, président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France. Vincent Maréchal, vous êtes professeur de virologie à Sorbonne Université. En visioconférence, on retrouve Anne-Claude Crémieux. Vous êtes professeur des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, membre de l'Académie de médecine et auteur de « Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, SRAS, crise sanitaire », c'est aux éditions Lavoisier. Et enfin, en direct de Londres, on retrouve Éric Albert. Vous êtes le correspondant à Londres pour le journal Le Monde. Hein, et je cite votre dernier article. « Au Royaume-Uni, une mutation du coronavirus vient conclure une année catastrophique ». Alors, Éric Albert, justement, on commence avec vous. Quelle est l'ambiance à Londres? On a vu hier beaucoup de monde prendre le train pour fuir la capitale. Est-ce qu'il y a un début de psychose? Là, vous êtes en ce qu'on appelle en niveau 4, ce n'était pas prévu, ça. C'est le rouge écarlate en termes de danger, comme on dit.
Le niveau 4, c'était vraiment inventé spécialement pour l'occasion par Boris Johnson, qui avait créé un système à 3 niveaux, et puis visiblement, ça sortait de ce niveau-là, donc il l'a créé de toutes pièces. C'est de fait un retour au confinement. Il y a un côté, pas fin du monde, il ne faut pas exagérer, mais je regardais le journal télévisé de la BBC à la mi-journée. Le premier titre, c'était « Le Royaume-Uni isolé ». Le deuxième titre, c'était « Les produits alimentaires pourraient venir à manquer ». Le deuxième titre, c'était « Les hôpitaux sont dépassés ». Le quatrième titre, c'était « Les banques alimentaires débordent de demandes ». Le cinquième titre, c'était « Les gens qui ne pourront pas se voir à Noël » et qui racontaient des familles épleurées. Donc ça commence à faire beaucoup, tout ça sur fond de Brexit qui n'est toujours pas résolu. Ça fait vraiment beaucoup pour un seul pays, avec 20 millions de personnes donc complètement confinées, des gens qui se sont rués sur les gares, effectivement, que ce soit les gares pour aller à l'étranger ou pour sortir de Londres, samedi et dimanche. Aujourd'hui, c'est à peu près fini parce qu'il n'y a pratiquement plus de trains qui partent, certainement plus de trains qui partent l'Europe, pratiquement plus d'avions non plus. Un petit peu encore de trains qui sortent de Londres, mais plus grand-chose. Donc, les gens sont bloqués à Londres.
Mais Éric Albert, on parle d'un virus mutant. Comment sont-ils perçus, les Londoniens? Je ne sais pas, quand ils vont à Liverpool ou à Manchester, là, on les dit « Oh là là, vous allez nous apporter le virus mutant ». Vous êtes presque perçus comme des aliens, un petit peu, là, avec ce virus mutant?
Alors, on n'en est pas encore tout à fait là, mais je pense que, de même qu'on a eu un moment vraiment peur du Covid, début mars, mettez-vous dans l'état d'esprit, on ne savait pas bien comment réagir à ce virus, à quel point c'était dangereux, à quel point ce n'était pas dangereux. Il y a un petit peu de ce sentiment-là, je pense, de nouveau à Londres, sur à quel point cette fois-ci c'est beaucoup plus dangereux. Ce qu'on sait quand même, c'est que les symptômes de ce virus ne sont pas plus dangereux, c'est sa propagation qui va plus vite, 70% plus rapidement, disent les autorités britanniques. Donc, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de scène de panique à Londres. On vit avec ce virus et ce confinement depuis très longtemps. Donc, il y a effectivement, je pense, de nouveau quand même un petit regain d'inquiétude. Voilà.
Vincent Maréchal, c'est vrai que ce virus, on croyait quand même le connaître. Maintenant, on vit avec lui depuis près d'un an, enfin un peu moins en France. C'est Emmanuel Macron qui disait « On est surpris par, alors oserais-je dire, son inventivité qui nous pousse à rendre humble ». On a l'impression qu'il nous joue des tours, ce virus-là. Alors,
non, tous les virus qu'on connaît, et a fortiori les virus qu'on appelle les virus ARN, sont des virus qui sont très variables. Et lui, il est plutôt moins variable qu'un certain nombre de virus ARN proches. Donc, on n'est pas très surpris par ce qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la nature, les virus évoluent, les virus ARN un peu plus vite que les autres. Le virus de la grippe évolue beaucoup plus vite, en fait. Hein. Et puis, ces différents virus essayent de trouver un chemin pour persister dans les populations. Donc, il y a une course entre les virus eux-mêmes. Hein. Certains essayent d'être plus infectieux. Enfin, essayent, on leur prête pas de volonté, mais certains sont plus infectieux, éventuellement. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'ils sont sélectionnés. Et ça, c'est le processus qui est important. Alors, sélectionnés par quoi? Par notre capacité à les contrôler, par la capacité des vaccins à les contrôler.
Ils sont darwiniens, quoi.
Exactement, ce sont des organismes qui réagissent exactement au même mode de fonctionnement que pour d'autres organismes vivants. Donc effectivement, ce qui préoccupe dans ce mutant, on a plein de mutants depuis le début qui sont apparus, plein de mutations. Ce qui préoccupe effectivement, c'est le fait qu'il concentre un certain nombre de mutations, et en particulier dans des zones très critiques du virus, des zones dont on sait qu'elles sont impliquées justement dans l'infection des cellules, dans l'échappement au système immunitaire. Donc ça préoccupe, mais on n'a pas la preuve que ces mutations sont actives aujourd'hui, en tout cas qu'elles ont une conséquence immédiate. Et puis le fait, et ça c'est encore à confirmer, qu'il a l'air effectivement de circuler plus vite. Mais à ma connaissance, il circule plus vite parce que le virus, les mesures barrières ne sont pas non plus correctement appliquées. Ce n'est pas un virus qui passe a priori plus facilement entre les mailles d'un masque, et ce n'est pas un virus qui résiste au gel hydroalcoolique. C'est un virus qui effectivement peut-être est produit en plus grande quantité, mais ça restera à être prouvé, et qui peut contaminer plus facilement. Mais tout ça reste à établir. On est vraiment dans une phase d'incertitude. Il y a beaucoup de confirmations en attente.
Parce que Anne-Claude Crémieux, c'est vrai qu'il y a eu un doublement là, des contaminations en Grande-Bretagne. On est passé en une semaine de 17 000 à 35 000. C'est ça qui intrigue les Britanniques ?
Non, comme ça vient d'être très bien expliqué, effectivement, c'est la conjonction de facteurs. D'une part, épidémiologique, le fait qu'il y ait une augmentation rapide des contaminations, et que ce virus devienne dominant, c'est-à-dire que maintenant, il représente une partie importante des contaminations, notamment dans la zone du Sud-Est.
62%.
Et ceci a été... Absolument. Et ceci a été associé effectivement à l'examen des mutations qui apparaissent, ça a été très bien dit, comme à la fois importantes et touchant des zones critiques qui peuvent avoir un impact sur l'entrée du virus dans la cellule et sa transmissibilité. Ce sont des données que les Anglais ont montrées dans des modèles in vitro, en laboratoire ou chez l'animal, sur certaines de ces mutations, mais maintenant reste à démontrer que ce virus, qui présente un grand nombre de mutations, est lui-même plus infectieux, oui, plus transmissible et a un vrai impact sur l'épidémie.
Patrick Pelloux, c'est vrai qu'on nous parlait de Noël, on nous parlait d'un déconfinement, on nous avait promis d'ailleurs la réouverture du théâtre. Et là, padaboum, on a un virus mutant, rien que le mot fait peur, et qui est ultra contagieux. C'est quand même un coup de massue en cette fin d'année, non ?
C'est un coup de massue. On peut se demander pourquoi Boris Johnson a annoncé ça comme ça, aussi brutalement. C'est quand même assez étonnant pour quelqu'un qui ne croyait pas au coronavirus et qui maintenant explique qu'il y a un virus, selon ses termes, beaucoup plus virulent. On a quand même l'impression que c'est Benny Hill qui est devenu un petit peu Premier ministre britannique. Bon, donc du coup, on a une inquiétude. Je ne vais pas vous le cacher. On a vu la communication, le communiqué de presse qui a été faite par le Premier ministre hier soir. On est inquiet parce qu'on se pose plein de questions. Heureusement, nous avons la science fondamentale hein, de mes collègues, nous qui sommes des cliniciens. On attend des réponses. Parce que est-ce que... Alors, ils disent qu'il ne va pas être plus virulent. Soit, mais...
On est plus contagieux.
Voilà, plus contagieux, etc. Est-ce qu'il va y avoir l'immunité qui va être conservée ? Ça, c'est des interpellations. Moi, je voudrais d'abord rassurer les Françaises et Français. Comme vous disiez fort justement, on n'est pas du tout dans le même schéma que l'Angleterre. Hein. Vous avez quand même les Françaises et les Français qui respectent quand même les gestes barrières. On n'a pas 100%, on n'a jamais 100%. Mais en gros, les gens respectent, hein, dans les rues, etc. Ils respectent. Même si là, c'est les cadeaux de Noël, d'accord, vous allez me dire, ils sont tous dans des queues pour faire des cadeaux. Mais bon, voilà, ils ont tous, en gros, le masque et le gel hydroalcoolique. Bon. Deuxièmement, on n'est pas dans le schéma du mois de février où on devait écluser les mensonges des Chinois, où on ne savait pas où on allait, on a découvert la maladie. Trois, on sait mieux la soigner. Donc, on sait mieux l'appréhender. Donc, on met moins de respirateurs artificiels sur les malades. On sait manier un corticoïde qui s'appelle la dexaméthasone. Donc, on a plein d'éléments. Vous voyez,
on est un peu mieux armé face à ce virus.
Ne soyons pas plus anxieux, ouais, qu'il ne faudrait. Sachons raison garder. Pas de panique, d'accord ? Pas de panique. il y a des questions scientifiques importantes à avoir, mais je vous assure, on n'est pas du tout dans le schéma du mois de mars. Mais voilà.
En tous les cas, donc, c'est l'inquiétude, hein, malgré tout, qui domine en Grande-Bretagne suite à l'apparition donc, de cette nouvelle souche du coronavirus. L'épidémie est devenue, de l'aveu du gouvernement britannique, hors de contrôle. Conséquence immédiate, on l'a dit, de nombreux pays, dont la France, ont fermé leurs frontières avec le Royaume-Uni. Voyez ce sujet de Pierre Millet-Bellando et Christophe Roquet.
Ce sont les images du Royaume-Uni d'il y a une semaine. Celles des premières vaccinations, sous le regard d'un Premier ministre enthousiaste. Mais voilà qu'en quelques jours, la situation a basculé. Londres est comme figé. Des trains à l'arrêt, des rues presque vides. Le virus a muté, devenant ainsi bien plus contagieux. Exit le Boris Johnson rassurant.
C'est avec le cœur lourd que je vous annonce que l'on aura un Noël très différent.
Et place à des ministres alarmants.
Cette nouvelle mutation est hors de contrôle. Et il faut qu'on puisse la contrôler. Cette mutation est la dernière mauvaise nouvelle d'une année catastrophique. Il est important que tout le monde fasse attention. Que chacun se conduise comme s'il pouvait avoir le Covid.
Pourtant, la mutation d'un virus n'a rien d'exceptionnel. En presque un an, le Covid a déjà muté plus de 20 000 fois de par le monde. Sauf qu'au Royaume-Uni, la mutation concerne la protéine de surface du virus aussi, appelée spike. La pointe du virus qui lui permet de pénétrer dans nos cellules. Cette forme-là de Covid n'est pas forcément plus virulente, mais bien plus contagieuse. Et c'est là ce qui inquiète la communauté scientifique.
On pourrait se retrouver dans une situation, et j'insiste sur le conditionnel car rien n'est certain, où l'on pourrait contracter un virus moins pathogène, moins puissant, mais qui infecte plus de personnes. Ce qui imposera un fardeau encore plus lourd au système de santé, à nos hôpitaux, et c'est là que réside le problème. C'est l'équilibre entre les deux. Donc s'il est positif que ce ne soit pas plus pathogène, ça ne veut pas non plus dire qu'il n'y a rien à craindre.
Alerte en Angleterre donc, et réaction quasi immédiate de ses voisins européens. Dès hier, les Pays-Bas, puis l'Allemagne, l'Irlande, la Belgique, l'Italie, mais aussi la France, interrompent toute liaison avec le Royaume-Uni. Une mesure en place pour 48 heures, alors qu'Emmanuel Macron, toujours confiné, évoquait aujourd'hui la suite en Conseil des ministres.
On va demander vraisemblablement que des tests PCR soient présentés comme étant négatifs à l'arrivée du territoire. Et évidemment, il nous faut bâtir une solution pour nos ressortissants qui souhaiteraient rejoindre le territoire national dans cette période de fête, en leur recommandant dès hier soir d'aller justement faire des tests PCR pour pouvoir se déplacer s'ils le souhaitaient.
La France coupe donc les ponts momentanément, rapidement suivie par d'autres pays d'Europe et au-delà. L'Australie ou encore Hong Kong rompent tout lien avec le Royaume-Uni, une situation sans précédent pour les Londoniens.
On devient vraiment isolé, ça fait peur.
Je comprends pourquoi les autres pays européens ont pris cette décision. Ce qui se passe ici est terrible.
Le monde entier est fermé pour nous, c'est vraiment pas bon.
Mais ces mesures arriveraient-elles trop tard? Au Danemark et aux Pays-Bas, des cas de ce nouveau Covid ont été signalés. Tout comme en Italie, où face à l'augmentation des contaminations, le gouvernement a décrété un reconfinement total pour Noël.
Cette décision n'est pas facile à prendre. Il est douloureux de devoir renforcer les mesures avant les vacances qui arrivent. Mais il le faut pour mieux se protéger et mieux se relever en janvier.
Même en Suède, souvent présentée comme un modèle face à la crise sanitaire, la deuxième vague a contraint le gouvernement à une série de mesures restrictives pour les prochaines semaines.
Alors, question téléspectateur Anne-Claude Crémieux. Est-on en droit de penser que ce virus mutant a d'ores et déjà franchi la Manche? Question de Rodolphe dans les Yvelines.
Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, on se la pose tous. C'est tout à fait possible. Et ce qui est important, c'est de savoir à quelle proportion. Et j'imagine que nos virologues sont en train de travailler très sérieusement la question pour pouvoir nous donner les résultats. Mais évidemment, on l'a vu, c'est extrêmement difficile d'arrêter des virus aux frontières. La première et la deuxième vague sont là pour le démontrer.
Vincent Maréchal, ça veut dire qu'on détecte la nature du virus. Par exemple, si quelqu'un a le coronavirus, on dit « Ah bah tiens, vous avez telle souche ». Par exemple, pourquoi est-on capable de dire que 62% des contaminations à Londres viennent de cette souche mutante ?
Alors en fait, il y a deux étapes. Il y a la détection du virus, ça c'est le test nasal qu'on connaît maintenant bien. Et puis après, et en France, on le fait beaucoup moins qu'en Angleterre, il y a ce qu'on appelle le séquençage. C'est-à-dire que là, il y a une technique qui est supplémentaire, qu'on ne fait que dans certains cas, où on va lire le patrimoine génétique du virus. Et c'est là où on va mettre en évidence d'éventuelles mutations. Ce qui me semble important, c'est qu'on ne pourra pas développer tout à coup. Ça n'a pas été la politique de la France de séquencer. La Grande-Bretagne a fait un choix différent. On estime qu'ils séquencent environ 10% des souches qui circulent chez les cas. En France, on n'a pas fait exactement la même stratégie. Ce qui serait important, en revanche, c'est que les gens... Parce qu'il y a eu un mouvement de panique, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ont quitté Londres en urgence. Et dans l'eau, il y a peut-être potentiellement des gens qui sont partis avec ce variant. Donc ce qui serait important, c'est que les gens qui sont revenus de Londres s'isolent, évidemment signalent tout problème et éventuellement soient suivis. C'est pas forcément la RT-PCR, faut pas forcément la faire quand ils arrivent sur le quai du train. Il va peut-être falloir attendre dans 2-3 jours, refaire des tests, les laisser s'isoler et vérifier effectivement que les souches qu'ils ont ramenées ne sont pas les souches qui nous posent problème. Donc il y aura peut-être une surveillance plus pointue à faire des gens qui ont quitté Londres un peu en urgence.
C'est vrai que Patrick Pelloux, on a vu hier soir, Gare du Nord, il y a eu des reportages, c'était la même chose en Belgique, là, tous les Londoniens qui, vite, avant avant le couvre-feu, avaient pris l'Eurostar pour... quitter Londres, il risque de propager ce virus, même si on fait les tests PCR.
Et vous avez raison, et c'est un mouvement de panique qui a été déclenché par le Premier ministre britannique. Qu'est-ce qu'il cherchait derrière, je ne sais pas. Mais il y a vraiment, ça aurait pu être peut-être préparé, peut-être qu'ils auraient pu lancer une information aux pays en lien principaux avec eux, de manière à ce qu'on se prépare, à ce qu'en effet, quand des gens reviennent, ils soient testés à l'arrivée de la gare. S'ils étaient positifs, on aurait très bien pu les isoler s'ils n'avaient pas la possibilité dans des hôtels ou leur expliquer la septaine nécessaire. Bon, voilà, il faut pas prendre ça comme une nouvelle croisée des chemins épouvantable sur l'épidémie, sur ce qui se passe avec cette nouvelle maladie, mais plus une péripétie supplémentaire qui nécessite une mobilisation de l'ensemble des scientifiques.
Éric Albert, quel est l'état d'esprit de la communauté française à Londres ? Il y a 300 000 Français, je crois, qui vivent à Londres. Beaucoup, j'imagine, avaient prévu de revenir passer Noël en famille en France. Donc là, c'est impossible. Vous êtes prisonnier sur votre île ?
Alors je vous corrige juste, ce n'est pas 300 000 Français à Londres, c'est plutôt 150 000 maximum. Mais oui, les Français, beaucoup avaient prévu de partir en vacances, en famille, en France, bien sûr. Beaucoup avaient des billets d'Eurostar dans les jours qui viennent, qui sont tous annulés, des billets d'avion également. Et donc, il y a une certaine colère qui se retourne contre Boris Johnson, qui est aussi vrai chez tous les Londoniens, qui trouve que c'est tombé à 16h le samedi pour imposition le samedi soir à minuit, et qui trouve que c'est inacceptable que ça arrive aussi vite. En même temps, ce que dit Boris Johnson, c'est qu'il a eu ce briefing scientifique le vendredi avec cette affirmation de 70% de contamination supplémentaire, plus rapide. Si c'est le cas, il a agi très rapidement parce qu'il fallait limiter ça le plus vite possible. Boris Johnson n'a pas agi pour le plaisir sur quelque chose comme ça. Il était sous pression de ses propres troupes pour conservatrices pour ne surtout pas réduire les autorisations à Noël. Au contraire, il voulait ouvrir pour Noël. Donc s'il l'a fait, c'est certainement pas par partie de plaisir. Il s'est senti obligé et bien sûr, tout le monde réagit assez mal à l'annulation de Noël. C'est un plaisir pour personne.
Oui, la presse titrait Boris Johnson « Cancel, annule Noël ». Ça veut dire que concrètement, donc on va pas pouvoir, les gens seuls vont rester seuls. Et là, il y a une autre conséquence, vous nous en parliez tout à l'heure, c'est qu'on a appris avec le Brexit d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de produits frais qui venait du continent. Alors maintenant qu'on a fermé les frontières, vous allez peut-être manquer de... Je ne sais pas, mais il n'y aura peut-être pas de dinde ou à Noël ?
Alors, de la dinde, a priori, il y a ce qu'il faut. En revanche, Sainsbury, qui est une grande chaîne de supermarchés ici, a dit des laitues, des choux-fleurs, des citrons, ils pourraient venir à manquer dans les jours qui viennent. Le Royaume-Uni est un pays où, en hiver, ça ne pousse pas bien. Et donc, l'essentiel des produits frais sont importés d'Europe. Ils passent pratiquement tous par Douvres et par le tunnel sous la Manche, à Folkestone, juste à côté. C'est 30% des trafics marchandises qui passent par là. Le jour où ça bloque, c'est tout de suite l'asphyxie du Royaume-Uni. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé à cause du Brexit, parce que le Brexit, ce n'est pas une fermeture de la frontière, mais c'est des grains de sable dans la frontière qui rendent ces importations et exportations un peu plus dures. Et donc aujourd'hui, immédiatement, il y a eu deux grands embouteillages à la frontière sur l'autoroute M20 qui va jusqu'à dans le Kent, avec des files de camions donc, qui sont maintenant parquées sur le côté, sur la bande d'arrêt d'urgence, et probablement des camionneurs qui vont passer Noël ici. Le temps qu'on réussisse à ressortir tous ces gens, ça va prendre plusieurs jours. Ça a bien montré effectivement cet événement. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y a eu des grèves dans le port de Calais où c'était un peu similaire. Mais ça montre à quel point il y a une dépendance, et c'est un peu une interdépendance, mais une dépendance particulièrement du Royaume-Uni vis-à-vis des produits frais venant d'Europe.
Vincent Maréchal, on voit donc dans le virus, il y a plusieurs paramètres. Il y a la contagiosité du virus. Est-ce qu'il y a aussi sa dangerosité? Alors là, bon,
on appelle sa virulence. Oui,
sa virulence. Là, on a de la chance, finalement, ça n'est que la contagiosité qui a évolué.
Pour l'instant, on va attendre que les données se stabilisent. Hein. C'est, encore une fois, il faut voir que ces données sur la transmission sont des données qui sont pour l'instant d'ordre épidémiologique, qu'il va falloir consolider. Je voulais juste revenir également sur le confinement. Je pense que politiquement, pour les Anglais, c'est sans doute plus facile d'accepter un nouveau confinement parce qu'il y a ce danger de ce mutant que dans un contexte dans lequel le mutant ne serait pas là. Donc, en fait, le problème de la Grande-Bretagne, c'est quand même qu'ils ont affaire à une vague épidémique qui est considérable et qui n'est pas seulement liée aux mutants. Donc je pense que quelque part, le fait d'associer ce danger spécifique va aussi responsabiliser plus peut-être et faire revenir un peu plus de raison et de prise en compte des gestes barrières. Ça, je pense que c'est important. Sur la virulence, rien n'est établi aujourd'hui. Hein. On n'a pas aujourd'hui, d'ailleurs, à ma connaissance, de variants viraux qui aient été identifiés avec une virulence accrue. Encore une fois, on le disait tout à l'heure, il y a une compétition entre les virus. L'intérêt d'un virus, entre guillemets, c'est d'être facilement transmis et de trouver des hôtes. Donc un virus n'a pas forcément besoin d'être plus pathogène pour faire ça. L'important, c'est qu'ils se transmettent de mieux en mieux. Donc ça, on s'attend plutôt à ce que les virus sélectionnés soient plus facilement transmissibles que virulents. Après, on ne choisit pas.
Mais Anne-Claude Crémieux, un virus plus contagieux mais moins virulent, ça serait peut-être l'occasion d'atteindre plus vite l'immunité de groupe à moindre frais.
Oui, vous avez raison. Mais bon, pour l'instant, on table sur le vaccin pour essayer d'augmenter l'immunité des populations. À ce stade, les Anglais nous disent qu'il n'y a pas de raison de penser que l'immunité vaccinale serait remise en cause par ce nouveau variant. Là aussi, on attend les résultats des expérimentations qui vont être faites pour bien vérifier que les sérums des convalescents ou les sérums des vaccinés sont bien neutralisants vis-à-vis de cette nouvelle souche.
Éric Albert, tout ça se passe en plein Brexit. On se dit Boris Johnson, là, il a deux dossiers brûlants au feu. Là. Le Brexit, c'est dans 10 jours, théoriquement. Donc, est-ce qu'il peut mener
absolument le front? Il manque plus qu'une invasion de cricket et il aura la totale, absolument. C'est très compliqué. Nicola Sturgeon, la première ministre d'Écosse, a immédiatement dit qu'il faut reporter l'entrée en vigueur des relations commerciales post-Brexit parce qu'il est inimaginable de s'occuper d'une crise sanitaire majeure en même temps que d'un dossier politique majeur. Et il se demande aussi du côté britannique si l'interdiction des marchandises, du trafic de marchandises des camionneurs de la part de la France, il n'y a que la France qui interdit ça. Les Pays-Bas, l'Italie ont interdit les voyageurs, pas les marchandises. Ce n'est pas aussi un coup de semonce pour dire voyez ce qui se passe si la frontière se ferme. Rappelez-vous, en mars, on a fermé les frontières, on n'a pas fermé le trafic marchandises. Et je ne sais pas pourquoi cette décision a été prise de la part des Français, mais le Sun a sauté sur la conclusion et titrait aujourd'hui « Les gouvernements français sont sans merci, les Français sont sans merci ». Chacun lira ce qu'il veut dans ce qui vient de se passer, mais ce n'est pas complètement exclu qu'il y ait un message subliminal.
C'est-à-dire qu'on utilise cette frontière que nous maîtrisons, puisque le tunnel sous la Manche arrive en France, pour faire un peu le chantage à la laitue en disant « Vous voyez, si vous êtes trop rude en négociation,
on peut vous montrer ce que c'est que de couper le tunnel sous la Manche. C'est ça ?
C'est ça. C'est s'il y a trop de friction au lendemain du Brexit, si par exemple il n'y a pas d'accord d'ici le 31 décembre, et donc il y aura non seulement des contrôles des marchandises aux frontières, mais en plus des droits de douane, ça va ralentir forcément le flux. Et voilà la conclusion extrême, alors vraiment extrême, du ralentissement des flux. Il est possible que ce soit tout simplement une décision d'ordre sanitaire et qu'on cherche la petite bête dans cette décision. Je ne sais pas.
Vincent Maréchal, donc qui dit nouveau virus dit nouvelle caractéristique du virus. Est-ce que le vaccin Pfizer, qui d'ailleurs commence à être administré au Royaume-Uni, hein, est-ce que du coup, bah, face à, il est toujours efficace à 95%? Parce que
ça, on le saura lorsqu'on aura récupéré le sérum des gens qui auront été vaccinés, qu'on pourra vérifier, comme ça a été dit très bien par Laure Crémieux il y a quelques instants, quand on pourra vérifier que les anticorps produits en réponse au vaccin neutralisent le variant. Donc il va falloir attendre un petit peu. Alors ce qu'on pense aujourd'hui, si vous voulez, c'est que ces modifications... Le vaccin, il est fabriqué pour développer des anticorps contre cette protéine de surface qu'on appelle la spike. Et ce qu'on voit effectivement, c'est un certain nombre de mutations, de changements très ponctuels sur cette spike. Donc la question est de savoir si ces changements ponctuels peuvent ou non permettre un échappement du virus. Il est peu probable, globalement, compte tenu que le vaccin est constitué sur la base de la totalité de la protéine, que ça bloque totalement l'effet. Mais il faudra tester, encore une fois. Là, il faut attendre le verdict des laboratoires pour être sûr que ça fonctionne.
Mais Anne-Claude Crémieux, d'une façon théorique, si on a un virus mutant, bon, bah, on se dit que c'est difficile d'avoir un vaccin efficace à 95% si ce virus continue de nous jouer des tours, comme on dit.
C'est une alerte, mais... c'est vrai que d'après les premières données qui nous sont communiquées par les Anglais, a priori, ça toucherait suffisamment peu la spike protéine pour que les vaccins continuent à faire fabriquer par notre organisme un nombre d'anticorps suffisant pour neutraliser le virus. C'est ça l'intérêt de vaccins, c'est de ne pas susciter un anticorps spécifique contre un endroit de la spike, mais bien plusieurs anticorps. Et donc, s'il y a une mutation très ponctuelle à haut niveau de la spike protéine, on peut espérer qu'on a un répertoire d'anticorps suffisamment large pour garder l'efficacité du vaccin et éventuellement garder l'efficacité du vaccin à 95%. C'est évidemment ce qu'on espère.
Alors, c'est la bonne nouvelle de la journée, il y en a quand même eu une, hein. C'est l'autorité médicale de santé européenne qui, dans l'après-midi, a validé le vaccin Pfizer. Le vaccin Pfizer qui devrait donc être disponible en France dès dimanche prochain. Vous voyez ce sujet d'Aubery Perrault, Laszlo Gélabert et Wan Nguyen.
Royaume-Uni, États-Unis, Canada, à l'heure où le monde commence à se vacciner, l'Agence européenne des médicaments vient à son tour cet après-midi de donner son accord pour la mise sur le marché du vaccin Pfizer-BioNTech.
Le vaccin respecte les critères élevés et très stricts de l'Union européenne en termes de sécurité, d'efficacité et de qualité. Les résultats ont montré que les bénéfices sont bien plus importants que les risques.
Le feu vert, tant attendu par les 27. Désormais, c'est à chaque pays de mettre en place sa stratégie vaccinale. Ce matin, en attente de la validation européenne, la ministre déléguée à l'industrie annonce des échéances dès la fin de semaine.
Ce qui pourrait permettre d'avoir une autorisation de mise sur le marché demain, ce qui pourrait permettre d'avoir les premières livraisons le 26 décembre et les premières vaccinations le 27 décembre.
Derrière ce calendrier, un défi logistique de taille. Les vaccins seront acheminés depuis le site de production Pfizer en Belgique, livrés à des plateformes de stockage, à des pharmacies ou dans des hôpitaux. Des établissements tous équipés de super congélateurs pour un vaccin qui doit être conservé à des températures extrêmes, entre moins 70 et moins 80 degrés. Mais alors, comment respecter la chaîne du froid jusqu'à leur arrivée? Notamment grâce à de la neige carbonique. Un respect strict des températures lors du transport, ce laboratoire accrédité sera chargé d'y veiller.
La source du froid la plus adaptée et la neige carbonique qui se sublime à moins 78,5. Donc elle a une température suffisante pour garantir cette phase de transport et de stockage.
Une fois sortis de cette chaîne du froid, les vaccins devront être administrés sous 5 jours. Un casse-tête logistique, mais aussi un défi sécuritaire. Date, itinéraire, destination, ces informations resteront secrètes. Dans une note confidentielle dévoilée par le journal du dimanche, les autorités anticipent plusieurs types de menaces. Des livraisons sous très haute sécurité, d'abord sur le terrain, avec la surveillance des camions de livraison et des lieux de stockage, mais aussi sur Internet après plusieurs attaques de laboratoires et de sites pharmaceutiques ces dernières semaines. Des cybercriminels motivés par la manne financière que représentent les vaccins.
L'idée, c'est de saboter les chaînes de transport et puis aussi demander des ransomware, c'est-à-dire demander de l'argent. Et les structures, notamment médicales, les laboratoires, les hôpitaux, je ne veux pas généraliser, mais ne sont peut-être pas assez bien équipés parce que c'est nouveau pour eux, probablement nouveau, contrairement aux industriels qui ont toujours été confrontés à la problématique de l'espionnage industriel.
Autre défi en bout de chaîne, convaincre du bienfait de la vaccination. Premier public concerné, les EHPAD. Dans cet établissement du Val-de-Marne, une campagne de tests sérologiques a d'ores et déjà commencé.
Donc s'il y a des anticorps contre le Covid, c'est que vous avez été en contact avec le Covid. S'il n'y en a pas, c'est que vous n'avez pas été en contact.
Objectif, convaincre des résidents, pour certains très sceptiques.
Si c'est obligatoire, je vais le supporter.
C'est pas obligatoire.
Bon, ben si c'est pas obligatoire, j'en veux pas.
Je préfère prendre le risque de choper du virus, et qu'on ne soigne pas, plutôt que d'être vacciné et qu'on ne sache pas non plus.
D'autres vaccins sont attendus dans les prochains mois, et notamment celui du laboratoire Moderna, déjà validé ce week-end par les États-Unis.
Patrick Pelou, on voit qu'il y a pas mal de scepticisme vis-à-vis de ce vaccin. Néanmoins, est-ce que vous sentez une impatience quand même? Là, on nous dit que bah, ça y est, dimanche, il va arriver.
Oui. Écoutez, je comprends les réticences de certains, mais il n'y a pas d'autre solution, en fait. Il n'y a pas d'autre solution si on veut protéger la population, si on veut protéger les plus fragiles, dont les personnes âgées. Donc évidemment, là, il va falloir qu'on fasse preuve de pédagogie. Mais c'est un progrès considérable, ce qu'a fait la science là. Et vous voyez bien, on aurait pu être inquiet, si vous voulez, s'il y avait eu juste ce laboratoire américain qui avait sorti son vaccin, qu'on l'aurait mis sur le marché. Là, ce n'est pas le cas. Hein. Il s'est passé par les fourches codines, n'est-ce pas, des Américains qui se font des procès immédiatement si ça ne marche pas, donc ils ont fait attention. Ça vient d'être validé, ce que vous venez de dire, par l'Europe. Donc, en fait, on sent bien que tous les dossiers ont été vraiment expertisés, ça a été redit. Donc, vraiment, on a plus de bénéfices que de risques à le faire. Il faudra le faire. Alors, en effet, je comprends la réticence et des gens qui se disent « mais finalement, mais vraiment, il faudra se faire vacciner. » Et oui, il y a une impatience pour nous soignants. Il y a une impatience parce qu'il faut absolument qu'on donne une ouverture et une forme de sortie de cette maladie parce qu'on ne peut pas continuer à contraindre et restreindre la société.
Et pourtant, même au sein du personnel médical, il y a aussi parfois du scepticisme à l'égard de ce vaccin.
Oui, bah, écoutez,
pas beaucoup.
Je sais pas, mais quand on est scientifique, on croit au vaccin. Je suis désolé.
Hein. Anne-Claude Crémieux, chacun aura-t-il le choix du vaccin? Sinon, selon quels critères seront-ils attribués? C'est vrai que là, il y a le vaccin Pfizer qui a été autorisé, mais le 6 janvier, il y aura aussi le vaccin Moderna. Alors on va aller, on dira, bah, moi, tiens, je vais prendre le Pfizer. Oh, bah, moi, je vais prendre le Moderna. Lequel vous choisiriez?
Non, je crois que les vaccins vont arriver progressivement. Les vaccins vont arriver progressivement et il n'y aura pas un vrai choix. Les premiers, c'est-à-dire essentiellement le premier groupe, les résidents des EHPAD et le personnel soignant à risque qui font partie de ce premier groupe d'un million de personnes vont être vaccinés avec le vaccin Pfizer qui est le premier disponible, et je pense que nous allons tous être vaccinés en fonction avec les vaccins disponibles. Il faudra attendre un certain temps pour que le nombre de vaccins disponibles soit suffisamment important pour qu'on puisse à ce moment-là se poser des questions sur le choix, mais là on se retrouve après l'été 2021.
Éric Albert, alors en Grande-Bretagne, il y a déjà eu 500 000 Britanniques, hein, je crois, qui ont été vaccinés. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a les mêmes réticences ou est-ce que les Britanniques sont ravis de se faire vacciner?
Il y a beaucoup moins de sceptiques du vaccin au Royaume-Uni qu'il y en a en France ou en Italie, par exemple, pour pas mal de raisons historiques, mais il y a moins de scepticisme. De toute façon, il y a 500 000 de vaccins qui ont été réalisés en 15 jours, formidable, mais avant que ça ait un impact sur la population, il faut quoi, 10 millions, 20 millions de personnes. Ça vous donne une idée du temps que ça va prendre. On a Pâques, le printemps en vue, quelque chose comme ça. Ça va être très long. C'est ce que disait votre reportage. Très bien, il faut conserver le vaccin par moins 70 degrés. Donc, il y a une cinquantaine de centres de vaccination qui sont essentiellement les hôpitaux, en fait, où ça a lieu ici. Avec d'abord en priorité les gens des EHPAD, puis ensuite c'est par ordre d'âge, donc les plus de 80 ans, puis les plus de 75 ans, puis les plus de 70 ans, etc. Ça va être très long, ça se passe plutôt pas mal, et c'est l'espoir auquel se raccroche le gouvernement britannique, qui en a beaucoup parlé ces derniers jours, parce qu'en même temps il y avait tellement de mauvaises nouvelles qu'effectivement il y avait que ça à mettre en avant.
Vincent Maréchal, donc on l'a dit, hein, nous les premières vaccinations pourraient commencer dimanche prochain. Comment ça va se passer au fur et à mesure que la population sera de plus en plus vacciné, on verra les contaminations décliner.
Ça, c'est une vraie question. Le choix qu'on a fait aujourd'hui est basé sur ce qu'on sait de ces vaccins. Ces vaccins, ils empêchent la maladie. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est s'ils empêchent la circulation du virus. Ça peut sembler bizarre, mais les deux sont dissociés ou peuvent être dissociés. Donc, quel est le choix aujourd'hui? C'est de bloquer la maladie chez les gens qui ont le plus de chances de développer des formes, c'est-à-dire ceux qui sont les plus exposés, les personnels soignants, mais ceux également qui sont les plus fragiles, donc les personnes âgées, mais il ne faut pas oublier non plus les hypertendus, les diabétiques et d'autres encore. Donc, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il y a un acte solidaire dans la vaccination. J'entends cette personne âgée qu'on vient de voir qui nous dit finalement, j'en veux pas. Mais il faut bien comprendre que c'est un choix personnel qu'elle fait. Mais demain, si cette personne fait une forme grave et qu'elle va en réanimation, elle prendra la place d'un jeune qui aura eu un accident de moto sur le périphérique et qui aura besoin d'être soigné en urgence ou de quelqu'un qui aura besoin d'un lit en réanimation. Donc, il y a aussi dans cette notion de protéger les gens, mais essayer de faire en sorte que les gens protégés n'embolissent pas un système hospitalier, et ça vous pourrez sans doute le compléter, qui est quand même en très grande souffrance et qui ne peut pas gérer tout le monde.
Alors, système hospitalier en très grande souffrance, on a dit qu'on était en dessous des 3000 personnes atteintes du Covid en réanimation et que c'était, de ce point de vue, un indicateur positif, rassurant.
Non, mais ce qu'il y a de rassurant, parce que vous avez les effets qu'il y a eu du confinement. Donc, d'un coup, si le concept de vague est toujours valable, l'effet de la deuxième vague s'est atténué. On sait qu'il va y avoir une troisième, quatrième, c'est très probable, d'accord? Donc maintenant, on va s'habituer. La seule chose, c'est qu'il faut que les hôpitaux arrêtent les coups de boutoir comme ça. Ils arrêteront les coups de boutoir si on est dimensionné en fonction des besoins de la population et donc de quelque chose dont beaucoup de directeurs et de technocrates du ministère ne veulent pas entendre parler, c'est-à-dire qu'on surdimensionne un peu les hôpitaux au lieu d'être toujours au fil de l'eau avec juste le lit qu'il faut par jour, hein, ce qu'ils appellent le besoin journalier en lit, d'accord ? Donc on voit bien où ils veulent venir, c'est-à-dire rentabiliser le plus possible le monde hospitalier. Non, moi je crois qu'il faut vraiment qu'ils changent d'idée et de paradigme en se disant, écoutez, on surdimensionne notamment la réanimation médicale, on rouvre des lits de réanimation médicale, il y en a certains, on ne va pas les utiliser, mais ils sont là en réserve, et on laisse, parce qu'il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas que le coronavirus pendant qu'on parle là, il y a tous les autres malades. Et donc ça a eu des conséquences, notamment le fait qu'on ait dit aux gens, non, vous restez chez vous au mois de mars ou au mois d'avril, vous avez vu ce qu'ont dit les cancérologues en disant, on a augmenté la mortalité d'un certain nombre de cancers.
Des gens qui arrivent avec des formes avancées de cancer ou d'autres pathologies.
Des gens qui ne veulent pas aller à l'hôpital. Je profite d'être sur votre chaîne pour dire aux gens, vous devez prendre vos traitements et si ça ne va pas, vous devez consulter votre médecin traitant. S'il vous dit d'aller à l'hôpital, il faut aller à l'hôpital. Il y a des gens qui ne veulent pas aller à l'hôpital. De peur d'être malade, de peur d'encombrer, de ne pas être pris en charge. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit.
Mais attendez, on sait
que
très souvent quand on va à l'hôpital, on attrape des maladies par inadvertance. Non, alors là, il y a deux fils séparés.
Oui, il y a des fils séparés. Tout a vraiment été organisé partout, d'accord. Vous avez les personnels qui sont équipés, d'accord. Il y a du gel hydroalcoolique, il y a des masques. On a eu du mal à les avoir, ça c'est sûr. On les a maintenant. On fait très attention, mais on a vu des personnes arriver avec des infarctus constitués qui refusaient d'appeler au secours. Donc là, si vous voulez, il faut vraiment là qu'on change l'idée de se dire la deuxième vague est passée, on diminue le nombre de lits et puis ça va aller pour avoir quoi ? Dans quelques temps, besoin de réouvrir des lits ? Non.
faut qu'on soit constant. Moi, je pense, si vous voulez, une des idées que je leur soumets, c'est de réouvrir, par exemple, le Val-de-Grâce, qui est quand même facilement, on peut le réutiliser facilement, et de dire qu'on met un hôpital comme ça en veille, et si jamais il y a à nouveau, parce que je ne suis pas cassante, je ne veux pas faire de scénario catastrophe, mais si jamais on se retrouve à nouveau avec un virus, après Noël, avec un virus, comme ils disent, qui soit un peu plus virulent, etc., il faut qu'on l'anticipe, c'est notre responsabilité.
Anne-Claude Crémieux, il faut être réaliste. Hein. On voit d'ailleurs que l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas sont plutôt en train de durcir le protocole sanitaire, voire de carrément reconfiner. Le mois de janvier risque d'être le mois des illusions pour les cinémas, les théâtres ou les restaurateurs qui attendent, qui espèrent la réouverture le 20 janvier. Il y a des dates, hein, et 7 janvier pour les théâtres.
Alors tout ça, ça dépend pas seulement d'un facteur viral, ça dépend d'un facteur humain. C'est sûr que le comportement qu'on a dans les 10 jours qui viennent va influencer la circulation du virus et la courbe épidémique 14 jours plus tard. Donc on va le savoir assez rapidement quel va être l'impact des vacances. Ça va jouer aussi, hein, le fait qu'on sera en vacances scolaires, donc moins de déplacements, mais aussi les rassemblements familiaux, avec le risque d'avoir un mélange des générations, qui est évidemment très dangereux pour les personnes qui sont les plus vulnérables et qui malheureusement ne sont pas encore vaccinées. Donc on va constater tout ça 15 jours après, et c'est évidemment en fonction des résultats et de l'évolution de la courbe épidémique que le gouvernement, on l'a suffisamment dit ici, il y a très peu de visibilité, va décider quelles sont les mesures de freinage nécessaires ou pas. On le regrette tous, hein, une vraie incertitude pour des professionnels qui sont en grande difficulté.
Le facteur humain, Éric Albert, en Grande-Bretagne, il y a 2 fois plus hein, de contamination qu'en France. Est-ce que, de votre point de vue, vous avez l'impression que les règles sanitaires sont peut-être, les gestes barrières, comme on dit, sont peut-être un peu moins bien respectés ? C'est vrai que dans le reportage à Londres, tout à l'heure, on a vu des gens, des Londoniens dans la rue qui n'avaient pas le masque, chose qui est assez rare, même qu'on ne voit pas du tout à Paris.
Alors, le masque n'est pas obligatoire dans la rue au Royaume-Uni, c'est l'une des grandes différences. Mais vous savez, le Royaume-Uni, l'Angleterre en particulier, a très mal géré la première vague parce qu'elle a confiné trop tard. Ça a coûté concrètement 10 000 vies supplémentaires. Mais aujourd'hui, il y a 67 000 morts au Royaume-Uni, contre à peu près 60 000 en France. La deuxième vague est assez similaire. Donc oui, en ce moment, il y a une poussée de contamination au Royaume-Uni, c'est sûr, particulièrement Londres, le Sud-Est, avec ce nouveau virus mutant. Mais franchement, les hésitations, la basse hésitation, la façon dont les gens portent le masque, pratiquement, absolument tous, hein, dans les magasins, dans les transports en commun, ça ressemble beaucoup à ce que j'entends de France. Ça ressemble beaucoup à ce que je vois ailleurs dans le reste de l'Europe aussi. C'est beaucoup de basse hésitation avec une volonté d'ouvrir l'économie, mais pas la possibilité de le faire vraiment. Vous voyez Boris Johnson qui voulait ouvrir pour 5 jours et permettre les rassemblements familiaux autour de Noël et qui a dû y renoncer finalement. Tout ça n'est pas très différent et la façon dont c'est appliqué n'est pas très différente.
Sauf qu'alors là, Patrick Pelloux, la grande différence, c'est que les Anglais sont prisonniers sur leur île. On parlait du facteur humain, il y a le Noël et il y a ensuite la Saint-Sylvestre. En France, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui prévoient d'aller passer le Nouvel An en République dominicaine ou de retourner dans la famille au Portugal ou au Maroc pour le Nouvel An. C'est et là, on risque de le payer en janvier ?
Oui, c'est des hypothèses. Il ne faut pas non plus faire plus peur que ça. Mais juste, si vous voulez, ceux qui partent à l'étranger, faut qu'ils l'assument. Hein. Moi, à mon sens, il vaut mieux être malade du coronavirus dans un système de santé où vous êtes connu plutôt que de partir et de vous choper un coronavirus grave dans des pays étrangers. S'il y en a qui ont la chance et la volonté, c'est leur choix. On ne peut pas entraver plus que ça la liberté, c'est leur choix. Mais juste, il faut qu'ils sachent qu'ils courent un risque potentiel. C'est très important ce qu'a dit votre correspondant de Londres. Hein. N'oubliez jamais que l'Angleterre n'a pas cru, hein, notamment son Premier ministre, hein, Boris Johnson, n'a pas cru au coronavirus. C'était très Trump, hein, très Trumpiste. Hein. Je n'y crois pas, je ne mets pas de masque, c'est négatif. Eh bien, c'est quand il est malade que là, il se dit, ah mince, et et il a eu une forme assez sérieuse. Et c'est là où, en fait, ça bascule. On n'a pas agi comme ça en France. D'autre part, vous avez un autre truc, hein, c'est qu'en France, vous avez un système de santé qui est différent. Hein. L'Angleterre, qui avait un très bon système de santé et un système hospitalier très fort, hein, Margaret Thatcher a vraiment tout saccagé. On n'est pas dans ces formes-là. C'est toujours pareil, c'est toute la relativité, si vous voulez, de nous comparer. Comparons ce qui est comparable. Or, on n'est pas strictement comparable au système anglais. Hein.
Alors, ne dramatisons pas, vous l'avez dit. On va essayer d'être positif en cette fin d'émission avec la bonne nouvelle de la journée. Eh bien, on l'a dit, c'est que là, il y a eu le fait que l'Europe a validé le vaccin Pfizer. Il y a une autre bonne nouvelle, c'est que la traditionnelle épidémie de grippe tant redoutée en début d'automne, eh bien, elle n'a pas eu lieu cette année. Vous allez le voir, il n'y a pas que le virus de la grippe également qui serait le seul à avoir quasiment disparu. Vous voyez ce sujet de Émilien David et Pierre Dehorne.
Petit coup d'alcool.
Visite de contrôle dans le cabinet du docteur Baqueta. Pour cette patiente, rien à signaler. Et cela dure étrangement depuis plusieurs mois.
Mais c'est vrai que cette année...
Non, j'ai rien eu.
Vous, madame, vous avez été moins malade que les années précédentes?
Ah oui, au niveau rhino-pharyngite, je n'en ai pas eu cette année. Vraiment, ça a été fulgurant, alors que je suis quand même régulièrement malade.
Un cas loin d'être isolé. Habituellement, les patients affluent dans ce cabinet dès la fin de l'été et le nombre de malades explose à l'automne. Mais cette année, la salle d'attente est presque vide.
Depuis septembre, je n'ai eu quasiment aucune pathologie infectieuse intercurrente qu'on a d'habitude à l'automne, c'est-à-dire pas de rhinopharyngite et ses complications. Les complications de rhinopharyngite, les sinusites, les otites pour les enfants, les bronchites, les trachéites, et même les gastro-entérites. Donc tout ça, je n'ai rien vu, alors rien de rien depuis le mois de septembre. Ça fait 30 ans que je suis installé ici. Hein, en 30 ans, c'est la première fois que je vois ça.
Autre maladie absente, la grippe, qui devrait normalement faire ses premiers malades. Et les patients du docteur Baqueta ne sont pas les seuls épargnés. Cette année, presque aucun cas n'a encore été recensé en France. Alors qu'en temps normal, ces trois dernières années par exemple, le virus commence à se propager à partir du mois de novembre. Et dans le monde, le constat est spectaculaire. Aucune épidémie de grippe enregistrée. Même dans l'hémisphère sud, où le virus circule activement d'avril à octobre.
Bonjour. Ouais, un petit pchit.
Une maladie stoppée net par la généralisation des gestes barrières, comme dans cette librairie. Port du masque, lavage de mains, des armes redoutables. Mais c'est peut-être aussi grâce au coronavirus lui-même que la grippe est absente, selon l'Institut Pasteur. Le SARS-CoV-2 écraserait tous les autres virus.
Aujourd'hui, on a une épidémie, même une pandémie à SARS-CoV-2, responsable de la Covid-19, et il semblerait que ce virus, pour l'instant, ait le dessus sur l'ensemble des autres virus respiratoires. Et quand une personne est infectée par le SARS-CoV-2, mais il ne laisse peut-être pas la place à d'autres virus respiratoires d'infecter. Ce sont des suppositions. Et donc, si on part de ce principe-là, étant donné que le SARS-CoV-2 est le virus majoritaire dans la population, bien, il ne laisse pas la place à l'autre virus qui pourrait éventuellement infecter. Aujourd'hui, c'est ce que l'on observe en tous les cas.
La grippe est aujourd'hui absente. Mais il se peut que l'épidémie commence plus tard cette année.
Je vais prendre la carte vitale, s'il vous plaît.
Alors, pour se prémunir, de nombreux Français se sont rués vers les pharmacies pour obtenir un vaccin contre la grippe. La demande est telle que les officines comme celle-ci sont aujourd'hui en rupture de stock.
En fait, ils sont stockés à ce niveau-là, chaque année. Et donc là, il n'y en a plus. En rupture. C'est quelque chose qui s'est passé assez rapidement.
En trois semaines, les 200 vaccins ont été écoulés et impossible de s'approvisionner. Grossistes, fabricants, tout le monde a été pris de court par cette demande inhabituelle.
Dans un premier temps, il y a eu les patients qui viennent chaque année se faire vacciner, qui sont venus un peu plus tôt cette année. Et puis, très rapidement, on a vu la mère de famille, le monsieur qui va travailler, la personne de 40 ans, 50 ans. Là, pour le coup, il y a eu tout le monde. Et c'est pour ça, en fait, qu'on s'est retrouvé très, très vite débordé.
Les pharmacies devraient bientôt être à nouveau approvisionnées en vaccins grâce au stock de l'État. En moyenne, la grippe tue 10 000 personnes chaque année en France. Une maladie dangereuse, mais qui tue moins que le coronavirus, qui a déjà fait plus de 60 000 victimes dans le pays.
Vincent Maréchal, c'est vrai que vous disiez là pendant le reportage que c'était spectaculaire. C'est 10 000 morts hein, qui vont.
Oui, c'est entre 8 et 14 000 morts par
éviter,
an.
Éviter alors.
Alors éviter, oui, on va le dire. On va attendre que l'hiver passe. Mais oui, bien sûr. Et puis alors même si les virologues aiment bien avoir des modèles dans lesquels un virus chasse l'autre, globalement quand même, on voit cette réduction pour les virus respiratoires syncytiaux qui sont responsables des bronchiolites chez les enfants, les virus des gastroentérites qui sont pas transmis par voie respiratoire mais principalement par voie manuportée. Ça donne quand même l'impression que les gestes barrières. Les Français ont réadhéré à l'hygiène, un peu sous la contrainte quand même, mais on a réadhéré à l'hygiène et finalement ça bloque tout. Et les collègues cliniciens peuvent le confirmer probablement.
Les gestes barrières. Oui, Anne-Claude Crémieux, ça veut dire que aussi on a vu qu'il y a eu deux fois plus de gens qui ont accepté de se faire vacciner contre la grippe. Donc nous ne sommes pas autant anti-vaccin que ça.
Non, c'est vrai que c'est un peu un espoir parce que peut-être que si on explique bien que le bénéfice est extrêmement important, je pense au vaccin contre le coronavirus et en particulier pour les personnes âgées, on arrivera peut-être à convaincre. Il faut quand même rappeler qu'au-dessus de 60 ans, on multiplie par 5 le risque mortalité, 70 ans par 10 et 60 et 80 ans, on multiplie par 15 le
pour
risque de mortalité non, pour le coronavirus par rapport à un adulte de moins de 50 ans. Et c'est pour ça que nous insistons sur le bénéfice de la vaccination contre le coronavirus pour toutes les personnes qui sont au-delà de 65 ans. J'adhère à l'analyse qui a été faite sur le fait qu'aujourd'hui, on souffre moins d'infections saisonnières que ce soit la grippe ou les gastro-entérites à cause des gestes barrières. Et je trouve que c'est une magnifique démonstration de l'efficacité du masque contre les virus respiratoires et de l'hygiène des mains contre les virus entériques, c'est-à-dire les gastro-entérites. J'espère que personne n'oubliera cette très belle leçon d'hygiène.
Donc on se lave les mains, on met le masque, ça le masque, peut-être qu'on finira, on espère par l'oublier. La bise, est-ce que la bise c'est sympathique, mais c'est un formidable vecteur propagateur de maladies et qu'il faudrait arrêter de s'embrasser sur les quatre joues.
La maladie d'amour.
Oui, bah oui, bah, appelez ça comme vous voulez.
C'est une maladie merveilleuse.
Est-ce que ça propage la bise et on fait bien de ne plus la faire
Je ne crois pas, c'est probablement un épiphénomène et il faut qu'on retrouve le sens des baisers et de la bise. S'il vous plaît, donnez un peu de douceur quand même. N'interdisons pas tout.
Non, mais vous disiez que c'était spectaculaire comment les gestes barrières avaient réduit ce type de maladie.
Je reviens sur ce que vient de dire mes collègues, c'est exact. Nous, on s'en est aperçu cet été. D'habitude, l'été, vous avez le passage de quelques virus qui passent, de gastro-entérite, rien. Là, j'étais avec mes collègues au SAMU de Paris, où on a tout un système de surveillance de la bronchiolite et de l'épidémie hivernale des enfants et des nourrissons, rien, zéro. Vous voyez, c'est spectaculaire, hein, parce que vous avez des courbes d'habitude chaque année qui sont comme ça. Là, la courbe, elle reste plate, c'est les courbes que vous venez de montrer. C'est la même chose. Là, à coup sûr, la grippe ne va pratiquement pas y en avoir. Parce que, en effet, il y a des gestes barrières, les gens se lavent mieux les mains. Il y a sans doute aussi, ça va sans doute jouer dans les infections nosocomiales dans les hôpitaux, parce que comme il y a eu tellement de rappels à l'ordre des personnels, vraiment le gel hydroalcoolique, le masque, etc., donc sans doute ça va faire baisser aussi les infections nosocomiales. Donc oui, c'est extraordinaire. Vous allez dans les restaurants, enfin, du temps où on allait au restaurant avant qu'ils interdisent tout, d'accord. Vous aviez vu cet été l'apparition du savon dans les toilettes, du gel. Donc en effet, ça c'est formidable. Vous savez, les Français, on n'était pas quand même en tête
de
la consommation de savon. Ça redevient. Et ça c'est intéressant parce que justement, c'est l'hygiène collective et ça va nous servir. Et ça, c'est très positif parce qu'en effet, comme vous dites fort justement, les 10 000 morts qu'on a d'habitude de la grippe et souvent 10 000 places en réanimation médicale supplémentaire, cette année, on va pas les avoir. Ça c'est bien.
Il y aura peut-être un point de vigilance sur les enfants. Quand même. Il faudra rappeler quand même que la grippe, à l'inverse du coronavirus, passe beaucoup par les enfants. Et les enfants, les gestes barrières, c'est plus difficile aussi. Gastro-entérite, c'est pareil. Les enfants sont... Donc il faudra faire attention. Il y aura une vigilance aussi à aider les enfants à avoir les bons gestes.
Mais là, ils sont bien éduqués parce que vous voyez ce qui a été fait à l'éducation nationale, ils mettent leur petit gel et puis vous avez le mimétisme avec papa et maman.
Oui,
c'est assez positif. Je crois que c'est bien ce qui se passe.
On est positif.
Voilà, des tas de bonnes nouvelles. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
Avec le grand nombre de gens infectés dans le monde, les chances de mutations dangereuses augmentent-elles, Vincent Maréchal ?
Ah bah ça, c'est statistique, ça là, oui, bien sûr. Le fait qu'il y ait des mutations, de toute façon, plus il y a de personnes infectées, plus le virus se réplique, plus il réplique, plus il risque de faire d'acquérir des mutations. Après, effectivement, il faut, à mon avis, faire attention à ne pas privilégier tout ce qui peut favoriser justement la circulation du virus. Donc éviter, notamment, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la circulation avec le monde animal, on l'a vu avec les visons il y a 2 mois. Il faut éviter aussi ce genre d'échange de virus qui n'est pas forcément très très bon pour l'évolution virale.
Mais est-ce que les modèles ne disent pas que plus un virus est mortel et moins il se propage ? Il a besoin, au fond...
Alors ça, c'est peut-être vrai pour Ebola. On a cru longtemps ça. Moi, je disais ça à mes étudiants quand on parlait d'Ebola. Mais enfin, on a eu 40 000 morts à la dernière épidémie. Donc je pense que même ça, il faut le relativiser.
On peut avoir très contagieux et très mortel.
Malheureusement, on peut avoir les deux en même temps. Oui. Ouais, alors non, c'est vrai qu'en général, il y a des ajustements qui se font et on voit que les virus qui se transmettent le mieux sont ceux qui mettent longtemps avant de provoquer la pathologie, qui sont très silencieux. Regardez le VIH, 9 ans avant d'avoir des formes cliniques, il s'est quand même très très bien répandu. Voilà, donc on peut trouver, oui.
Pourquoi le vaccin est-il réservé aux plus de 16 ans, Anne-Claude Crémieux ?
Alors, le vaccin Pfizer réservé aux plus de 16 ans, ça correspond à la population pour laquelle on a à la fois les données de sécurité et les données d'efficacité. Le vaccin Pfizer a vacciné des enfants. Pour ce qui est du Moderna, on a à ce stade pas d'enfants qui ont fait partie des essais et donc il sera limité aux adultes de plus de 18 ans. Ces deux industriels ont prévu d'étendre des essais avec des populations plus jeunes, donc on aura plus tard des résultats dans des populations pédiatriques.
Éric Albert, sait-on si ce virus mutant possiblement plus contagieux touche davantage les jeunes que le virus d'origine? Pour l'instant, ce virus, il est très dans Londres, ce virus-là, très contagieux dans Londres, et dans le sud-est, dans le Kent, hein, ça fait 18 millions d'habitants quand même, je crois.
C'est Londres, sud-est de l'Angleterre et est de l'Angleterre, effectivement. C'est les trois zones qui ont été classées en niveau 4. Je crois que la réponse est non, on ne sait pas. En tout cas, je n'ai pas d'informations en ce sens. Donc, je ne suis pas capable de répondre.
Mais s'il est très contagieux, ce virus, il va s'étendre dans le reste de l'île. C'est la loi du genre.
Il est déjà présent dans le reste de l'Angleterre, en niveau plus faible. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il est déjà présent. Il y a au moins un cas qui a été enregistré en Australie. Il y en a un en Italie. Il y en a eu plusieurs au Danemark, aux Pays-Bas. Donc, vous savez, ce virus mutant a été détecté en octobre sur un prélèvement réalisé en septembre. Donc, ouais. Il existe depuis un bout de temps. Il se trouve que maintenant, les scientifiques britanniques ont fait une corrélation entre la vitesse de propagation et cette souche précise, mais il est en circulation depuis plusieurs mois.
Peut-on modifier l'actuel vaccin de Pfizer afin qu'il puisse combattre la nouvelle version du virus ? Est-ce que les vaccins, on les ajuste là en fonction de...
On n'en est pas là pour l'instant, donc on va attendre. C'est un gros travail. Alors techniquement, sur le papier, oui, on a des vaccins beaucoup plus compliqués qu'on arrive à modifier. Typiquement, le vaccin grippal est ajusté chaque année. Donc on a, avec un vaccin beaucoup plus difficile, technologiquement...
Le virus de la grippe, il mute chaque année, hein, et donc on ajuste...
Alors il se trouve, oui, c'est ça. Il se trouve qu'en fait, on regarde ce qui se passe dans l'hémisphère sud, parce qu'on sait qu'en gros, pendant notre hiver, il est présent ici, mais le reste du temps, il est toujours présent, il circule, et on le trouve dans l'hémisphère sud. C'est pour ça que l'hémisphère sud nous sert un peu de miroir pour savoir ce qui va arriver 6 mois plus tard. Donc en fait, on conçoit le vaccin très tôt dans l'année, 6 à 8 mois avant, de manière à anticiper la vague. Donc on sait faire des vaccins à peu près à façon. La technologie choisie par Moderna et par Pfizer est une molécule relativement simple, donc on doit pouvoir, sur le papier en tout cas, relativement simplement modifier le vaccin. Mais je crois qu'on n'en est pas là pour l'instant, mais théoriquement, on peut le faire, oui.
Sera-t-il possible d'interdire l'accès à des lieux publics aux personnes non vaccinées ? C'est vrai que c'est une proposition, ça, d'un député, de dire, voilà, de même qu'il y a un permis de conduire qui vous permet de conduire, vous avez un vaccin qui vous permet de circuler.
Non, ça serait extrêmement compliqué, hein, parce que si vous mettez une obligation, hein, et qui contrôle, hein, donc ça voudrait dire une mobilisation des forces policières alors qu'on a des risques d'attentats absolument majeurs. Non, ça me paraît pas possible. Par contre, si vous voulez qu'il y ait ce qui est en train d'être préparé, hein, une politique de vaccination une explication, une pédagogie de la part de ce que nous sommes, de ce que nous faisons là, du vivre ensemble, de la responsabilité citoyenne, de je me vaccine pour te protéger, pour me protéger bien sûr, mais pour te protéger et pour protéger l'ensemble, ça aura du sens. En fait, il faut se baser et moi je suis très confiant, les Françaises et Français, hein, on n'aurait jamais misé mais un euro sur le fait qu'ils respectent le confinement, en gros ils l'ont respecté. Le port du masque, en gros, bien sûr, il n'y a pas 100%, mais ils le respectent. Il faut être optimiste. Donc, d'un coup, d'avoir une politique vaccinale, vous avez vu, on leur a dit « vaccinez-vous sur la grippe ». On est en rupture de stock des vaccins sur la grippe. Donc, ça a du sens. Il y a une citoyenneté, une responsabilité de notre pays dont on peut être fier.
Éric Albert, sait-on pourquoi le virus mutant est apparu en Angleterre ? Est-ce qu'on se sent un peu maudit en Angleterre là, avec ce virus ?
Je crois que la réponse est que personne ne sait. Les scientifiques proches du gouvernement britannique ont dit qu'ils pensent que c'est apparu soit dans le Kent, soit à Londres. Ils n'en sont même pas certains exactement de où c'est apparu. C'est une mutation. Il y a eu des milliers de mutations de ce virus depuis le début. Pourquoi est-ce que celui-ci se propage plus vite pour l'instant, ben voilà, on a des explications scientifiques, mais pourquoi c'est tombé sur le Kent et l'Angleterre Je crois qu'il n'y a malheureusement pas d'autre réponse que pas de chance.
Anne-Claude Crémieux, les voyants semblent être tous au vert pour un reconfinement. Peut-on estimer quand ? C'est une question de Christophe qui nous suit depuis l'Autriche.
Quand on va reconfiner, on l'a dit, ça dépend de l'évolution de l'épidémie. Donc aujourd'hui, je pense que personne ne le sait. Si effectivement on se retrouve face à une situation très difficile, et ça veut dire quoi une situation très difficile ? C'est-à-dire de nouveau les services hospitaliers qui sont pleins, les réanimations qui sont pleines. Évidemment, les autorités sanitaires n'auront d'autre choix que de reconfiner pour gagner du temps, pour essayer d'attendre le moment où la vaccination couvrira une population suffisamment importante pour éviter qu'il y ait trop de malades et qui submergent le système de santé.
Pourquoi une telle différence de prix pour les vaccins, Vincent Maréchal ? C'est vrai qu'on a appris, enfin ça a été d'ailleurs une fuite, hein, que les doses valaient entre, pour les moins chers, un peu moins de 2 euros et les plus chers jusqu'à près de 15 euros, la dose.
Je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas ce qui a été négocié. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'aux États-Unis, il y a eu des aides de l'État pour développer les vaccins, donc ça a pu modifier le prix, mais je n'ai pas l'explication, je ne suis absolument pas dans le dossier.
Le virus de la grippe pourrait-il totalement disparaître ? Patrick Peloux ?
Non, bien sûr, non. Il est vraisemblablement là, mais on limite énormément avec les gestes barrières, mais il est là. Mais pour revenir sur, si vous me permettez, juste sur ce qu'a dit...
Anne-Claude Crémieux.
Voilà, Claude Crémieux et qui est juste. Moi, à mon avis, il faut vraiment laisser une capacité des hôpitaux, même si les lits sont inoccupés, il faut qu'on reste justement pour éviter ce qu'on appelle le stop and go, d'accord, d'avoir encore un coup de boutoir et de limiter avec le confinement. Si on a une capacité suffisante, on devrait pouvoir éviter de reconfiner si on garde une capacité hospitalière suffisante. Je sais que la technostructure est contre parce qu'elle dit on doit rediminuer le nombre de lits et adapter en fonction. Moi je crois que ce n'est pas une bonne idée parce que ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que les conséquences du confinement, notamment psychiatrique, avec les alertes notamment de nos collègues en pédopsychiatrie, c'est vraiment important. Hein. Vous avez une augmentation de la consommation des antidépresseurs, etc. Alors oui, si jamais on ne peut pas faire autrement, on reconfine. Mais il ne faut pas que ça soit l'alpha et l'oméga et qu'on confine la France comme ça sans arrêt. Je vous assure, nous avons une population qui est souffrante, qui n'est pas bien, mais où le moral n'est pas bon. Et ça, ce n'est pas bien, ça.
Est-ce l'Europe ou chaque pays qui va payer les vaccins ? Alors, je ne sais pas qui peut répondre. Anne-Claude Crémieux, on imagine que c'est chaque pays qui va payer.
Il y a un financement commun. Je pense que tous les pays ont participé ou participent au financement. La différence entre l'Europe et l'Angleterre, c'est qu'effectivement les négociations se sont faites en commun, les achats et les préachats en commun, et le pourcentage de population vaccinée dans tous ces pays devrait être à peu près identique. C'est probablement ce qui a permis de baisser les prix. On sait qu'il y a eu des fuites sur les prix qui ont été pratiqué avec l'Union européenne, mais probablement la négociation collective a joué un rôle.
Oui, puisque les prix qu'on a appris suite à ces fuites étaient plus bas que ceux qu'on imaginait. On imaginait jusqu'à vers 30 euros. Et finalement, on s'est aperçu que le plus élevé était 15 euros. Emmanuel Macron va-t-il être le premier Français à se faire vacciner ? Vincent Maréchal, bah non, ça va être les EHPAD.
Ça, il faut lui demander. Et là, puis là, je crois que la question pour Emmanuel Macron ne va pas se poser dans les mêmes termes, puisqu'on ne recommande plus maintenant de vacciner les gens qui ont déjà été infectés. Donc,
il a une immunité d'au moins, que disent les études, au moins 9 mois.
On pense que l'immunité dure au moins 6 mois, mais maintenant, encore une fois, voilà.
Moi, ça ne me choquerait pas, parce que c'est la continuité de l'État, et c'est le chef de l'État, et c'est important qu'il soit vacciné.
Mais je pense qu'il faut qu'on ait tous conscience quand même qu'on a de la chance de pouvoir choisir ou pas de se faire vacciner. Il y a des pays qui ont mal géré les stocks, qui ont mal géré les politiques sanitaires, qui n'ont pas forcément les moyens financiers d'assurer une vaccination massive. Profitons de la chance qui nous est donnée quand même.
C'est pour ça que le vaccin devrait être universel. Bien sûr.
On est d'accord.
Et bien voilà, c'est sur cette recommandation que se termine cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Rediffusion de C'est dans l'air ce soir à 22h25. Vous restez bien sûr sur France 5. À suivre, c'est à vous.